Et bah, t'es même pas là, c'est pareil. Kevin Parker, il est dans cette même démarche. C'est deux Kevin d'abord, d'ailleurs. C'est marrant. Les trois Kevin en fait. Kevin Shields, Kevin Parker et Kevin Lafort. Voilà. Juste ça en fait.
Salut et bienvenue à tous dans le 21e épisode des Mercredi D-Lab, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui font vivre le Ninkasi Music Lab. L'idée est assez simple, on parle musique et on en écoute, accompagné d'artistes émergents ou de ceux qui les aident à grandir. Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial car on reçoit de nouveau Luge dans Mercredi D-Lab. Salut les gars.
Salut.
Salut.
Alors, comment ça fait d'avoir son album qui vient d'être publié après plusieurs mois, voire plusieurs années de travail? Comment vous êtes les gars là, en ce moment?
C'est un grand soulagement d'avoir enfin sorti ce disque, d'avoir après avoir beaucoup travaillé dessus, cherché comment le sortir de la meilleure des manières. Ça fait bien plaisir d'avoir enfin déchargé cette pression et hop, c'est bon, c'est fait. On passe à autre chose.
En 2021, quand vous avez rencontré Alex, du coup, c'était encore le Covid, vous aviez fait l'interview en distanciel par Zoom. Vous parliez que vous aimeriez de publier l'album fin 2021. En étant optimiste, vous avez dit. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que cet album aujourd'hui, il a pris un peu de retard? Est-ce que c'est le Covid? Est-ce que c'est la production? Comment... Pour ceux qui connaissent pas forcément la production musicale, comment est-ce qu'un album prend du retard?
Alors, en fait, il a pris du retard, pas forcément dans la réalisation ni la composition, parce que les compositions, elles étaient toutes prêtes en 2020, je crois. Il y avait déjà toutes les chansons qui étaient là. La réalisation, on a dû finir d'enregistrer, rec, mixer, tout ça. L'été 2021, on avait fini toutes les prises. C'est aussi parce qu'en fait... À ce moment-là, on cherchait des partenaires ou des gens pour soutenir le projet et aider à le sortir de la meilleure des manières. Et avec le Covid, il y a eu un vrai embouteillage au niveau des sorties de disques. Donc ça a été un peu galère. On voulait pas le sortir comme ça, sans rien, sans personne. Let's go. Parce qu'on était content du travail, on avait envie de... Et du coup, c'est surtout là où ça a pris du retard. C'est la recherche de partenaires et créer un planning pour... le sortir de la meilleure des manières.
Et aujourd'hui, comment vous êtes accompagné justement? Est-ce que vous avez l'appui de, tu parlais de maison de disques, de labels ou juste de professionnels qui vous aident pour la promotion, pour vous présenter dans des salles, devant un public? Comment ça se passe?
On est resté en autoproduction pour l'album, donc il n'y a pas de maison de disques, de label sur le disque. Du coup, on a notre petite structure Rallumons les étoiles qu'on gère avec des proches qui gèrent du coup la production, mais ça c'est du coup c'est du DIY quoi. C'est pas
c'est beaucoup de DIY comme tu dis, c'est ouais. Beaucoup ça quand on commence, ou en tout cas quand on veut essayer de se créer un réseau, de se créer un public et de publier son premier album, c'est beaucoup de d'apprentissage tout seul du coup.
Bah carrément, et là du coup la force du DIY elle a été boostée par une aide de la Dami en plus, qui du coup vient injecter de l'argent pour nous aider à faire la promotion et à travailler justement avec nos partenaires correctement. Donc oui, mais du coup c'est le DIY plus on va dire, qui fait que ça permet d'être à la fois libre de ce qu'on fait et en même temps du coup répondre à ces besoins qu'on a à ce moment-là quand on est un groupe émergent autonome pour sortir un album quoi.
En tout cas, Raving Track, on a vraiment tout ce qu'il fait, c'est les sonorités, ça nous a vraiment tous touchés. Vous vouliez pas faire d'album concept. Qu'est-ce qu'on peut lire dans Raving Track? Ça a été quoi un peu la DA quand même?
La direction artistique, en fait, moi j'ai écrit les chansons de 2019 à 2020 environ, toutes les chansons dans ces eaux-là. Donc forcément, on retrouve des thèmes... Il y a un thème récurrent, c'est quand même le renfermement sur soi, l'absence de perspective, un futur un peu chelou, parce que c'était vraiment la merde à ce moment-là, on savait pas du tout ce qu'il allait se passer. Donc au niveau des thèmes, c'est vachement ça. Au niveau des sons, on avait envie de créer un truc un peu unique, où on mélange un peu... unique, c'est un grand mot, mais... Moi, je suis très rock and roll. Enfin, j'aime beaucoup la musique à guitare. Théo, il est vachement plus prod électro à la base, synthé, tout ça. Même si, bah, forcément, on est plein de d'accroches communes.
De différentes influences musicales
de
chacun.
De rock
ouais.
à guitare et de musique un peu plus électro, synthé, tout ça, qui a fait que Raving Track, il sonne comme il est maintenant, avec les thèmes abordés.
Est-ce que vous arrivez encore à écouter votre musique ou après 2 ans de travail sur un projet, vous en pouvez plus?
Moi, ça, le disque, je l'ai réécouté, je crois, à la sortie peut-être, ou un peu avant, et je m'étais dit, ah, c'est cool. J'ai plus aucun recul ni je suis pas du tout objectif, je me rends plus compte de rien sur cet album à part de certains défauts. Oui, peut-être ça aurait dû être plus comme ça, ou mais en vrai je suis satisfait aussi du choix de l'ordre des chansons, ou je me dis ah c'est cool, ça
a une
fait...
importance ça pour
ouais.
vous
Ouais, parce que c'est pas facile quand il y a 10 chansons qui, là on en a 10, arriver à faire en sorte que ça fatigue pas, qu'on soit pas fatigué à l'écoute, ou qu'on s'emmerde pas, ou quoi, faut trouver le bon équilibre. Mais du coup, je l'ai réécouté, je trouve qu'il s'est, en fait, je l'ai réécouté quand on a reçu les vinyles, et j'ai écouté le vinyle, en fait, en entier, et je me suis dit, ah, bon, il passe bien au vinyle, déjà, j'étais content, ça faisait une petite fierté d'avoir son petit disque, comme ça.
C'est important pour vous d'avoir du physique?
Ouais, carrément. C'est trop cool d'avoir l'objet, d'avoir le truc palpable, et aussi de pouvoir le vendre, l'offrir aux gens aussi. C'est vachement mieux que dire ah bah allez le retrouver sur Spotify, alors qu'au concert ça permet aussi d'échanger avec les gens autour. Ah bah je vais t'acheter ton disque ou machin. C'est déjà nous, ça nous fait plaisir que les gens veulent l'acheter.
En plus la pochette est vraiment canon. Vous pouvez nous parler un peu de la pochette?
Ouais, grave.
Alors la pochette, on va parler de mon pote Lucas, qui est Fellower, donc Fellower Lucas Eschenbrenner. C'est un artiste originaire de la région qui maintenant est à Paris. Et donc Lucas, il fait beaucoup de choses. Il fait de la musique, il fait du sound design pour plein de choses. Il fait aussi travaille aussi dans le visuel, notamment la 3D. Il a créé une map comme sur un jeu vidéo avec notre monde, quoi, le monde luge, avec notre l'univers, le ciel comme vous voulez, les étoiles comme vous voulez, la station essence posée là, cette grande route. Le petit coin là-bas avec le maïs, je sais plus ce que c'est. Il y a des tournesols, puis voilà, il y a la route avec les maïs et les néons là. On voit une voiture qui arrive au loin. Je sais plus ce qu'il y a d'autre. Il y a des espèces d'arbres bizarres. Et en fait, après, on se balade dans la map et on va sur le point de vue qu'on kiffe. Et là, on fait un screenshot et après c'est la pochette. Et du coup, ça c'est. Après, on va se balader, on va plus loin, on fait un screenshot et ça c'est l'arrière de la pochette. Et en fait, tous les visuels et les visuels des singles et tout ça, c'était comme ça. C'était en se baladant dans la map et en prenant des photos, quoi.
Et ça a été quoi les premiers retours du coup sur Raving Track de la part de votre communauté, même de vos potes, peut-être de vos familles?
Méga naze. Nul.
Ça m'étonnerait.
Non, nos proches, ils ont été assez inclus aussi dans le processus tout le long, parce que du coup, vu que le processus était long. On a pas mal fait. Il y a eu beaucoup de moments où on pouvait faire écouter les différentes étapes, donc on a eu pas mal de retours tout le long, quoi. Et c'est toujours super précieux, en fait, de savoir se situer. Quand tu passes beaucoup de temps sur des trucs, c'est très vite, tu perds beaucoup, très vite le recul et la perspective, et c'est très important. Moi, je trouve ça hyper important d'avoir à ce moment-là des retours.
Vous deveniez pas fou à la fin à force d'écouter, de réécouter, de modifier chaque piste?
Il y a eu des moments de folie, ouais. Bah, enfin, ouais, combiner ça avec le confinement qui, des bases, c'était pas évident pour la santé mentale. Et tous les problèmes en plus qui venaient du fait de cette période-là. C'est vrai que ça a été fait. Il y a des moments où c'était fait dans la douleur. Mais après, ouais, on a géré, quoi.
Dans... Ouais. Bah, vous l'avez super bien géré parce que l'album est vraiment cool. Là, je l'ai écouté avec le soleil et tu vois, j'ai franchement kiffé. Même si ça parle de thématiques, comme tu disais, peut-être d'isolement ou de manque de perspective, je trouve que quand il y a le soleil, en fait, il prend toute une autre dimension et c'est vraiment trop cool. Dans Mercredi du Lab, c'est vous les DJ. Quel morceau on passe à nos auditeurs?
Italia, let's go.
You don't think about
Alors on est de retour avec Luge après avoir écouté Italia, un morceau qu'on pourrait qualifier un peu de mélancolique. Est-ce que pour vous c'est important d'être mélancolique ?
Ouais, c'est important d'avoir des émotions en général aussi. Enfin, t'aimes bien cette phrase ? C'est hyper important d'avoir des émotions. Non, la mélancolie c'est important, oui et non. C'est bien quand on quand elle a sa place au sein d'une journée, d'une semaine, d'un mois, d'une vie et tout, mais après faut pas sombrer dans la mélancolie non plus. La chanson, elle était, c'est par rapport à Italia, elle est bien mélancolique parce que c'était bien la déprime à ce moment-là quand même. Le morceau, moi j'étais parti en Italie un peu en week-end vacances, c'était trop bien, il faisait trop beau machin et tout. Enfin, c'était super cool. Et je reviens en France, il y avait plein d'histoires de violences policières, il y avait le Covid, tout le monde était en panique, c'était
grosse déprime.
C'était infernal et du coup ça m'avait mis un petit coup, donc il y avait de la mélancolie mais c'était pas une bonne mélancolie. Il peut peut-être y avoir des mélancolies un peu plus genre bon. Pff.
Justement, il y a de la bonne mélancolie pour toi ?
Ouais, je pense. C'est ça fait partie un petit peu des émotions qu'on peut avoir. Des fois, on sent bien d'être un peu triste. Et en fait, ça permet de rebondir aussi, de ça permet de grandir, d'avoir des étapes pour aller mieux, pour s'ouvrir aux autres. Ça permet de grandir émotionnellement, je pense.
Et est-ce que pour vous, ça fait tout le temps écho à quelque chose de notre jeunesse, à quelque chose quand on était enfant, ou alors on peut être mélancolique de notre période d'adulte ?
Ouais, bah oui, je pense, ouais. Enfin, pour moi, des fois, la mélancolie, c'est pas spécialement lié à une époque particulière. Ça peut être juste un mood. Tu vois, moi, notamment quand c'est lié à la musique, par exemple, mais la mélancolie, ça peut être vraiment des couleurs ou des choses comme ça, des textures qui vont être ça va être un peu coconneux, un peu romantique, quoi. Et des fois, c'est aussi, oui, plus vraiment là, nostalgique aussi. Et du coup, il y a des trucs où, mais du coup, c'est le lien entre les deux aussi qui est marrant par rapport à la musique, où tu vas avoir des, enfin, dans tout ce qui est musique ou même plein de choses. Des fois, c'est même des odeurs qui arrivent et qui vont te faire sentir, vont te rappeler, je sais pas, une époque de ton enfance où c'est d'un coup, ça te fait un sentiment qui est cool, quoi. Et c'est pas triste non plus, tu vois. Enfin, ça dépend, mais c'est des fois, c'est quand même un truc où ça, oui, ça va là, ça va être lié à l'enfance ou au passé en tout cas, et c'est intéressant, mais c'est pas forcément le cas.
Et comment aujourd'hui la musique, par exemple, de My Bloody Valentine ou de Tame Impala vous touche personnellement, parce que maintenant vous faites de la musique, mais comment on apprend et comment on continue de recevoir la musique des autres et des groupes qui vous influencent?
Bah, c'est cool. Ouais, c'est trop bien. Bah, My Bloody Valentine, ça défonce. En vrai, c'est une bonne inspiration et aussi surtout référence, dans le sens où c'est vraiment un truc qu'on considère comme très classe. Unique, voilà, et c'est un bon objectif de dire voilà ce qui a été fait à ce moment-là en termes de guitare et de sonorité, c'est hyper novateur et ça a fait beaucoup de bien, et du coup nous on aime beaucoup écouter ça, du coup on a envie très modestement on est vraiment dans cette démarche de recherche et d'expérimentation. Et le studio, c'est extrêmement important pour nous. C'est vraiment une phase où beaucoup de choses se fait dans le développement de l'univers de la musique aussi. Et t'es même pas là, c'est pareil. Kevin Parker, il est dans cette même démarche. C'est deux Kevin d'abord, d'ailleurs. C'est marrant. Et trois Kevin.
Trois Kevin.
Kevin Shields, Kevin Parker et Kevin Lafort. Voilà. Juste ça, en fait. Et voilà, avec Kevin Parker, pareil, il est le studio, c'est toute la musique, quoi. Et c'est il crée l'intégralité de ses instruments, en fait, par la recherche, l'expérimentation en studio. Il fait tout lui-même. Enfin voilà, c'est la classe, quoi. Et puis ça sonne bien.
Et justement, qu'est-ce que vous écoutez en ce moment ?
Moi, le dernier album que j'ai écouté en date, c'est l'album de Ulrika Spacek, qui est un groupe anglais, et l'album s'appelle Compact Trauma, qui est vraiment intéressant. Déjà, les chansons sont cool, il y a plein de sons de guitare trop cool. Ils font sonner, je trouve qu'ils font sonner les guitares comme j'ai rarement entendu. Il y a un truc un peu Sonic Youth, mais pas aussi cradingue, c'est très clair en même temps. Un bel album.
Tu me lances parce que tu as parlé d'un groupe anglais. Moi, je vais vous parler des groupes anglophones. Je vais vous faire un petit quiz. J'ai pris des noms de groupes anglais. Ouais. Je les ai traduits en français.
Okay.
Un français, mon français.
Okay.
Et le but, c'est de les retrouver et que vous puissiez me dire un peu la relation que vous avez avec ce groupe-là, si vous a touché, comment il a pu vous influencer. On va commencer soft, facile.
Okay.
Et après, on va aller crescendo. Alors, pour commencer, les singes frileux.
Allez, Arctic Monkeys.
On est mitigé sur Arctic Monkeys, parce que moi j'ai écouté un peu, moi j'en suis sorti. Après, je reconnais qu'il y a des trucs qui sonnent bien et que c'est cool, tu vois, mais c'est pas un truc genre vraiment que je mets dans mes trucs qui sont vraiment que j'écoute et qui m'inspirent vraiment. Non. Mais Kevin, plus toi?
Ouais, moi j'ai beaucoup écouté les premiers, jusqu'à Humbug, je vais dire, les trois premiers, quoi. Après ce Kit and See, là, ça commence un peu déjà à décliner. Et là, les derniers trucs, je peux pas y supporter. Oh, c'est un enfer. Je trouve ça. Enfin, il y a plein de gens qui adorent et Et les deux derniers ont eu une presse de fou. La presse a adoré ces deux albums. Moi, c'est pas du tout ma musique. En fait, il me saoule trop le chanteur Alex Turner, je crois.
On va rester sur les premiers albums et classiques pour
ouais,
pour
bah
garder
ouais,
le
c'est
animal.
Un peu con, mais ça fait rester dans le passé en 2000. Mais après, ça m'a marqué parce qu'en tant qu'adolescent, c'était trop cool aussi d'écouter, de voir quatre gars tout boutonneux là. Ils avaient 17 ans, qui envoyaient des morceaux trop cool, quoi. C'était assez rafraîchissant.
Ensuite, 14 février, Ensanglanté.
Ah bah, My Bloody Valentine, du coup.
Facile.
Je suppose.
Facile.
Alors moi, il m'a beaucoup marqué. Surtout, en fait, l'album Loveless, qui est l'album, le plus gros album de My Bloody Valentine. Même si MBV, j'aime beaucoup l'album Bleu. En fait, ce que j'adore, c'est qu'il y a le son qui est assez impressionnant de guitare, tout ça, tout le traitement, mais qu'au-delà de ça, il y a des vraies chansons. Enfin, c'est pas juste un album de son, c'est des chansons méga pop avec un enrobage de sons de guitare, de sons de voix, de sons de boîte à rythme et tout, qui est hyper impressionnant. L'album date de 91, mais en fait, il a pas pris une ride, quoi. Il est assez intemporel. Moi, j'adore. J'adore.
Alors ensuite, fin de semaine entre buveurs de sang.
Ah, Vampire's Weekend.
Vampire's Weekend. Encore une bonne réponse. Celle-là, elle est plutôt simple. Pour ouvrir la boîte noire. Pour l'ouvrir.
Black Box Key.
Black Keys.
Ah ouais, ok.
Black Keys. Et le dernier, je pense que vous allez l'avoir assez facile. Salle de projection à double entrée.
Ah, Tudor Cinema Club.
Tudor Cinema Club.
Ah, c'est pas mal.
Anglophone. Ah, anglophone.
Ah, c'est bien vu.
Bon, c'est encore vous les DJ. Qu'est-ce que vous voulez faire écouter à nos auditeurs?
Board.
Et bah, c'est parti pour Board.
I'm
C'était Bored juste à l'instant. Je pense que ce morceau sur scène, ça peut vraiment être fou. C'est quoi votre rapport à la scène?
On a un rapport assez... En fait, c'est assez important pour nous, la scène aussi. On a évoqué le travail qu'on faisait en studio. Mais la scène, c'est vachement différent parce que on est nous cinq, un peu livrés à nous-mêmes. Il y a un truc un peu sur le fil qui est cool vis-à-vis de ça. C'est vachement cool aussi de pouvoir enfin jouer les morceaux de cet album sur scène et d'avoir le retour direct des gens, voir comment ils captent ou pas. On est un peu aussi, on reste un peu dans la, le peaufinage du son qu'on peut avoir en studio. On essaie de l'appliquer aussi sur la scène, voir comment on imbrique tous nos petits sons ensemble afin de pouvoir servir au mieux les chansons, quoi.
Vous disiez dans le premier épisode de Mercredi du Lab que vous vouliez défendre cet album sur scène, que vous vouliez pas sortir cet album tant que vous pouviez pas le représenter sur scène. Ça veut dire que il y a un vrai travail derrière. C'était vraiment très important pour vous de pouvoir le défendre et de pouvoir l'expliquer.
Ouais, oui c'est ça. Parce que au-delà de parce que aussi le processus de création de l'album, le studio et tout, il était tellement semé d'embûches, on va dire, que c'était très cool. C'était la volonté de pouvoir se retrouver enfin nous cinq pour pouvoir le faire, le produire à tous les cinq ensemble et le défendre à fond ensemble. C'était important de ce point de vue-là. On pouvait pas se dire on sort un album au milieu de nulle part sans pouvoir le jouer après. Ça aurait été nul, terrible.
Et à choisir entre scène et studio, vous êtes plutôt quoi?
C'était pas objectif, toi.
Moi je suis pas objectif parce que je suis je suis complètement d'accord avec ce que disait Kevin. Dans tous les cas, c'était pas envisageable de sortir l'album sans faire de concert et tout ça, quoi. Mais c'est ma passion. Enfin, ce qu'on a fait en studio pendant des mois, c'est ce que je kiffe faire, en fait, quoi. Donc c'est sûr. Enfin, moi je suis de base globalement plus studio que scène, quoi. Mais bon, c'est compliqué de jouer. Il faudrait pas avoir à choisir, ça serait nul, quoi.
C'est sûr.
Moi, j'aime les deux. J'équilibrerais bien les deux. Je trouve qu'en fait, en studio, il y a une espèce de magie, un petit truc qui opère. Et en live, il y a plus de danger. Il y a un truc un peu dangereux. Parce que si tu te foires, tu te foires devant les gens. Mais du coup, t'es obligé de te surpasser un peu. Et il y a un truc un peu. Faut prendre le tout sur soi, quoi. Et c'est cool.
Vous allez être le 27 avril à Crolles, le 28 à Annecy, le 29 à Montluçon. Est-ce que c'était aussi un rêve de pouvoir partir sur la route avec ses potes, faire la musique, avoir son tourbus? Est-ce que c'était un truc qui vous tenait à cœur, quoi?
On l'avait bien déjà fait un peu avant le Covid et tout, mais c'était pas un rêve, mais c'est toujours cool de partir sur les routes, même si c'est parfois vachement compliqué aussi. C'est pas que du fun, c'est en vrai c'est 90% de galère et 10% de méga cool fun. Quand on fait des dates comme ça, qu'on les enchaîne, on se rend pas compte qu'il y a quand même 90% de la journée qui est passée dans le camion à décharger, installer dans le froid avec des gens malades. Souvent là en février, on était tous malades. C'est aussi ça, pour au final 40 minutes de concert où des fois ça se passe super bien et des fois c'est plus mitigé, et après en général c'est cool parce que c'est à ce moment-là où tu retrouves de l'énergie avec l'adrénaline, tout ça. Mais globalement c'est à la fois très cool, mais en même temps c'est très difficile aussi, c'est hyper fatigant.
Vous êtes dans quel état après la sortie de scène? Vous êtes plutôt dans l'euphorie ou vous êtes épuisé?
Moi je suis vachement euphorique après, en général. Je m'amuse bien après. C'est le moment où les langues se délient un peu plus. Un peu comme quand on a trop bu et qu'on est un peu en fin de soirée.
Il y a un sentiment euphorisant quand on sort de scène ou même quand on est sur scène?
Ouais, quand ça se passe bien. Quand ça se passe bien.
Oui, c'est sûr, quand on n'a pas 40 de fièvre, après, quand on sort de scène, on est en général.
Ça sent le vécu.
C'est la fête, quoi. Ouais, il y avait une petite. Il y a eu une petite. Une petite épidémie au sein du groupe la dernière tournée.
Décidément, c'est votre direction artistique, l'épidémie, hein, dans
système immunitaire nul. Et du coup, là, ouais, on avait 5 dates. C'était compliqué, quoi. C'était compliqué. C'était pas fun de voir d'en voir qui est vraiment galéré, qui était pas bien. Ça enlevait beaucoup du fun des dates. Déjà que, au plus, comme disait Kevin, il y a beaucoup de trimage. Donc. Mais après, on les a faites, les gens étaient là, on était trop contents, on a pu les concerts étaient cool, les gens qui nous ont accueillis étaient cool, on n'a pas eu d'accident de voiture, enfin voilà, c'est trop cool quoi. Voilà.
Et aujourd'hui, en tant que groupe, ça serait quoi votre rêve? Est-ce que ça peut être de remplir une salle qui serait mythique? Ça peut être de produire un album avec un producteur que vous adorez? C'est quoi vos prochains objectifs, ce que vous adoriez réaliser?
D'avoir encore plus de gens qui écoutent, qui viennent voir le projet, quoi. Et le top du top, ce serait même d'arriver peut-être à toucher un public international et d'aller voir un peu ce qui se passe peut-être aux States. Les États-Unis d'Amérique.
Et toi, Kevin?
Moi, j'ai pas de rêve. J'ai aucun rêve, moi.
Et là, on cut l'interview là, maintenant, tu vois.
Aucun rêve. Aucun rêve. Vous avez écouté l'album, il n'y a pas de rêve possible, il n'y a pas de futur, déjà.
Raving Track, tout est dans le nom, tu vois.
Non, j'ai pas vraiment... Enfin, j'ai des rêves, mais... là, l'important, c'est de développer le projet dans la dynamique qu'on a. Faire un deuxième album où on s'amuse plus que sur le premier, parce que le premier il s'est fait, il y a eu du fun, il y a eu du moins fun et tout, mais c'était quand même vachement, comme on l'a dit avant, semé d'embûches. Il y a eu plein de difficultés qui étaient indépendantes de notre volonté, mais du coup là ça serait bien de refaire un album dans de meilleures conditions, plus soudés ensemble, on travaille plus 2 ou 3 semaines, j'en sais rien, ensemble à 100% et non pas des petites sessions à droite à gauche comme on a pu le faire pour celui-là. Donc ça serait déjà très cool de faire un deuxième album encore plus abouti, ça serait vraiment vraiment cool.
Bah en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup d'avoir participé une deuxième fois au Mercredi du Lab. C'était cool d'avoir pu avoir de vos news.
Bah ouais, merci à toi.
Et pour ceux qui n'ont pas encore écouté Raving Track, foncez écouter, c'est vraiment un petit bijou. Et puis pour nous, on se retrouve pour le prochain épisode de Mercredi du Lab. Salut, ciao.